certains psychiatres moins académistes que le docteur Lehmann situent le début de la folie de Ward pendant son voyage en Europe. Reconnaissant qu'il était sain d'esprit au moment de son départ, ils estiment que sa conduite avait radicalement changé à son retour. Mais le docteur Willett n'en démord pas. Quelque chose d'autre s'est produit plus tard, et il attribue le comportement étrange du jeune homme au rite qu'il a appris à l'étranger, pratiques étranges s'il en est, mais qui n'implique pas forcément la démence de celui qui s'y adonne. Ward, plus mature et endurci, semblait parfaitement normal, et au cours de ses conversations avec le docteur Willett, il fit preuve d'un réel équilibre mental qu'aucun fou ne peut feindre longtemps. De fait, ce furent les bruits provenant du laboratoire dans le grenier où Ward passait tout son temps qui conduisirent à envisager la folie comme éventualité. On entendait des chants, des imprécations, des déclamations syncopées, et bien que tous soient prononcés par Ward, le timbre de voix et les accents avec lesquels il récitait certaines formules donnaient littéralement la chair de poule. Même Nig, le chat de la maison, hérissait le poil en entendant certains sons. Des odeurs étranges s'échappaient du laboratoire, parfois immondes, mais le plus souvent aromatique, avec un pouvoir hallucinogène qui faisait naître des visions fantasmagoriques, mirages fugaces de perspectives gigantesques, d'avenues interminables bordées de sphinx et d'hippogriffes. Ward ne reprit pas ses longues promenades de naguère. Il s'appliquait principalement à l'étude des livres étranges qu'il avait rapportés et à d'autres investigations bizarres, expliquant que ses découvertes en Europe avaient formidablement élargi le champ de ses recherches et promettant de grandes révélations dans l'année à venir. Son aspect plus âgé avait, si c'était possible, augmenté encore sa ressemblance avec le portrait. Lors de ses visites, le docteur Willett, qui observait souvent le tableau, s'émerveillant toujours de la ressemblance, remarqua que la seule différence entre le défunt sorcier et son jeune patient était la petite cicatrice au-dessus de l'œil droit de Curven. Ces visites de Willett, effectuées à l'instigation de M. Ward, étaient particulièrement intrigantes. Ward ne refusait jamais de rencontrer le docteur. Cependant, ce dernier ne parvenait pas à pénétrer sa psychologie. Il remarquait souvent des choses étranges dans son bureau. De petites figurines en cire à l'aspect grotesque posées sur les étagères ou les tables, des traces de cercles partiellement effacées, des triangles et des pentagrammes tracés à la craie ou au fusain au centre de la pièce qui avait été dégagée. Et il y avait toujours ces incantations et ces rythmes qui firent que les domestiques commencèrent bientôt à parler de démence. En janvier 1927, un incident se produisit. Une nuit, alors que Charles se livrait à des incantations rituelles dont la cadence bizarre incommodait toute la maison, on ressentit soudain, venant de la baie, un vent glacial en même temps qu'un léger tremblement de terre que tout le voisinage remarqua également. Au même moment, le chat montra des signes évidents de frayeur et tous les chiens à un mile à la ronde se mirent à hurler. Ce fut le prélude à un orage violent, inhabituel en cette saison, dont les coups de tonnerre étaient si forts qu'à un moment, monsieur et madame Ward crurent bien que la maison avait été touchée. Ils se précipitèrent en haut pour constater les dégâts causés et trouvèrent Charles à la porte du grenier, pâle, résolu, avec une expression mélangée de terreur et de triomphe. Il les assura que la maison n'avait pas été touchée et que l'orage cesserait bientôt. Ils regardèrent par la fenêtre et c'était vrai. Les éclairs s'éloignaient et les arbres cessaient de plier sous cet étrange vent glacial qui venait de la mer. Le tonnerre faiblit, marmonna encore un peu et disparut tout à fait. Les étoiles brillèrent à nouveau, pendant que l'air de triomphe sur le visage de Ward se mua en une expression singulière. 2 mois après cet incident, Ward restait moins confiné dans son laboratoire. Curieusement, il avait commencé à s'intéresser à la météorologie et s'informa sur la date du dégel au printemps. Un soir en mars, il sortit en pleine nuit et ne revint qu'au petit matin. Sa mère, qui ne dormait pas, distingua un bruit de moteur dans l'allée. On entendait des jurons étouffés. Elle se leva, alla à la fenêtre et vit 4 silhouettes imposantes qui déchargeaient une caisse assez longue d'un camion et la portaient dans la maison. Elle perçut des halètements et des bruits de pas pesants dans l'escalier et finalement un grand bruit sourd au grenier. Après quoi, les bruits de pas redescendirent et les quatre inconnus réapparurent dehors avant de repartir dans leur camion. Le lendemain, Charles reprit ses travaux, reclus dans son laboratoire dont il avait tiré les rideaux opaques. Il n'ouvrit à personne et refusa toute nourriture. Vers midi, on entendit un bruit violent suivi d'un cri terrible et d'une chute. Madame Ward frappa à la porte. Au bout d'un moment, son fils lui répondit faiblement que ce n'était rien, que tout allait bien, que l'immonde et indescriptible puanteur qui s'échappait de la pièce était inoffensive mais indispensable, qu'il devait impérativement être seul et qu'il descendrait pour le dîner. En fin d'après-midi, après qu'on eut entendu une série de sifflements venant du grenier, il apparut finalement avec un air hagard, interdisant expressément que quiconque pénètre dans le laboratoire, sous quelque prétexte que ce fût. Une nouvelle étape venait d'être franchie en matière de secret, car personne n'y fut jamais plus admis, ni d'ailleurs dans la réserve adjacente qu'il avait annexée à son domaine inviolable et meublée sommairement en chambre à coucher. Il vécut ainsi jusqu'au moment où il acheta un petit bungalow à Pawtuxet et y déménagea tout son matériel scientifique. Ce soir-là, Charles se saisit du journal avant le reste de la famille et en détruisit une partie par un prétendu accident. Plus tard, le docteur Willett, qui en avait déterminé la date exacte par les déclarations des domestiques, se procura une copie du quotidien et découvrit dans la partie détruite par Ward l'entrefilet suivant. Des profanateurs dans le cimetière nord. Ce matin, Robert Hart, veilleur au cimetière nord, a surpris plusieurs hommes avec un camion dans l'ancienne partie du cimetière. Sa présence dut les effrayer car ils quittèrent les lieux sans avoir pu accomplir quoi que ce soit. La découverte a eu lieu vers 4 heures du matin quand l'attention de M. Hart a été attirée par un bruit de moteur non loin de son logement. Il sortit et vit un gros camion, mais il ne put s'en approcher sans que le bruit de ses pas sur le gravier ne signale sa présence. À ce moment, les hommes ont rapidement chargé une grande caisse dans le camion et ont réussi à s'enfuir. Comme aucune tombe n'a été profanée, M. Hart pense qu'il voulait enterrer la caisse. Les hommes ont dû creuser longtemps avant d'être surpris, car M. Hart a découvert un trou énorme creusé à bonne distance du carré à Massafield, où les anciennes pierres ont disparu depuis longtemps. Le trou, semblable à celui d'une tombe, était vide et ne correspondait à aucune sépulture dans les archives du cimetière. Le sergent Riley du commissariat de quartier pense qu'il s'agit de l'œuvre de bootleggers qui auraient trouvé ce moyen macabre pour mettre leur alcool à l'abri. M. Hart a enfin déclaré avoir vu le camion se diriger vers l'avenue Rochambeau, bien qu'il n'en soit pas absolument certain. Les jours suivants, Ward se montra encore moins que d'habitude. Ayant établi ses quartiers dans le grenier qu'il ne quittait plus, il demanda qu'un domestique lui porte ses repas sur un plateau qu'il ne prenait que lorsque le serviteur était reparti. Les incantations aux rythmes étranges et les récitations monotones de formules se poursuivaient, entrecoupées également par des tintements de verre, des sifflements, des bruits d'eau qui coulent et des rugissements de gaz enflammés. Des odeurs ignobles et inconnues flottaient parfois devant la porte. Quant à l'air étrange du jeune homme lorsque de temps à autre il s'aventurait dans la maison, il donnait évidemment cours à toutes les spéculations. Un jour, il fit un voyage éclair à l'Athénéum pour trouver un livre. Une autre fois, il engagea un coursier pour aller lui chercher un certain ouvrage à Boston. Un parfum de mystère enveloppait toute cette situation et tant la famille que le docteur Willett reconnaissaient être totalement déroutés et ne savoir que penser.